Eh bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Nous sommes au mois de mai, comme le dit l'adage, sell in May and go away. Je sais pas si ça va s'appliquer cette année, mais voilà, on est au mois de mai, c'est le printemps. Et aujourd'hui on va parler de Netflix, d'une série sur Netflix que j'ai regardée avec attention, How to get rich, comment devenir riche. Et je vais vous faire l'analyse de mon point de vue des 8 protagonistes de la série. Ça m'a pris du temps, hein. C'est un épisode que je vais enregistrer tout seul, donc ça m'a déjà pris du temps de regarder la série, et ça va me prendre du temps de vous la débriefer. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette série sur les finances perso. Ça a parlé, bon, c'était aux États-Unis, donc on va voir les spécificités des États-Unis, ce qui peut s'appliquer chez nous ou non. Mais il y a vraiment plein de bons conseils, qu'on soit aux États-Unis, au Pakistan ou au Japon, et bien entendu en France ou en Europe, il y a plein de conseils qui s'appliquent, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Donc il y aura des gros spoils, si vous voulez voir la série, je vous conseille de pas écouter l'épisode malheureusement, bien sûr. Après, c'est pas une série de science-fiction ou avec un suspense insoutenable. L'idée, c'est plutôt de suivre les personnes tout au long du coaching avec le coach perso. Donc, voilà, si vous écoutez l'épisode, vous pouvez quand même voir la série, parce que ça va même vous donner envie de regarder la série. Bien sûr, moi, je vais vous faire un épisode d'environ une heure, alors que je pense qu'il y a 8 épisodes de 30 à 45 minutes. Donc, je pourrais pas vous faire, bien sûr, la retranscription exacte du show. Et puis, bien sûr, je vais vous donner mes conseils, mon avis sur les protagonistes, les conseils qu'on leur donne. Donc, voilà, si vous voulez voir le show, vous pouvez le regarder avant, vous pouvez le regarder après, ou si vous voulez pas passer 4 heures ou 5 heures à regarder un show sur des personnes avec des surendettés aux US, et ben vous avez juste à écouter cet épisode. Avant de commencer, je vous fais quelques petits updates de ce qui m'arrive avec mes investissements immobiliers. Ça me fait du bien de faire le point. Je pense que c'est utile pour vous. Voilà, vous suivez. Je pense que si vous me suivez, c'est que vous voulez savoir comment ça se passe quand on est investisseur. Soit vous l'êtes déjà et vous reconnaissez dans mes histoires. Soit il y a peut-être des conseils à tirer de mon expérience. Et soit vous voulez devenir investisseur ou avoir plein de lots, les empiler comme des Lego, comme j'ai pu faire, et vous poser des questions sur ce qu'il arrive. Donc je vous raconte le bon, le moins bon. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'avais un appartement qui s'était libéré il y a quelques temps. Enfin en fait, je suis parti en vacances en plus. Comme vous le savez, sur les appartements avec des beaux meublés, le préavis n'est que de 1 mois. J'ai une locataire qui m'appelle, elle me dit bah, « je vais partir, je pars dans le sud de la France ». Et puis moi, j'allais le week-end suivant, j'étais pas là, j'étais à Istanbul. Donc je me suis dit « ok, week-end d'après ». Donc elle m'avait envoyé le recommandé le 6 avril. Donc moi, je pouvais pas y aller avant le 22 avril. Donc je suis allé le 22 avril, j'ai fait des visites. Et moi, dans 99% des cas, enfin toutes les autres fois en fait, je trouve tout le temps un locataire dans la journée. Je mets une annonce bien en avant. Quand je fais la visite, après, je trouve des locataires dans la journée. Il s'avère que là, il y a eu plusieurs choses. Donc, vu que j'étais en vacances, j'ai posté l'annonce que le mercredi pour le samedi. Je pensais que ce serait suffisant. Et ça n'a pas été. En fait, les locataires, les candidats que j'ai reçus, j'en ai eu 4-5. Franchement, ils n'étaient pas incroyables. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais revenir le week-end suivant. Et en fait, donc le 22 avril, je pense que c'était les vacances en France. Et à mon avis, j'ai eu moins de candidats par rapport à ça, et aussi parce que j'avais publié l'annonce que le mercredi. Mais j'ai bien vu la différence, en fait, rien que je suis allé dans une boulangerie à la même heure, le 22 avril et le 29 avril, si je me trompe pas, c'était samedi. Et le premier week-end, il y avait personne, le deuxième, il y avait 15 personnes devant moi. Donc voilà, quand vous mettez des annonces, parfois ça mord pas, souvent vous êtes trop cher. Souvent, votre annonce n'est pas bien rédigée ou vos photos elles sont pas bonnes, mais très souvent c'est que vous êtes trop cher. Mais après il y a des facteurs externes. Voilà, si vous louez en août en général, ça se loue beaucoup mieux qu'à d'autres périodes de l'année. Mais comme on a que 1 mois de préavis avec le meublé, faut être très réactif si vous voulez pas avoir de vacances locatives. Et donc j'ai décidé, donc malgré les dossiers que j'avais eus le 22 avril, qui en fait ne me satisfaisaient pas vraiment, c'était pas vraiment les dossiers qui étaient pas satisfaisants, mais c'était plutôt les candidats, ça m'avait l'air d'être des personnes compliquées, et moi j'ai trop de lots à gérer pour pouvoir gérer les personnes compliquées. Donc j'ai refait les visites le 29 avril, ça s'est très bien passé, j'ai trouvé un locataire qui est rentré au 1er mai, donc on a fait ça super vite, et c'était top. Ensuite, dans l'épisode précédent, donc l'épisode avec Claire Lambert, Tout simplement, c'est mon épisode qui a fait le meilleur démarrage. Je sais, je vous le dis assez souvent. Bah forcément, les auteurs du podcast, ils augmentent. Ils augmentent pas super vite, hein, je dois le dire, mais ils augmentent de semaine en semaine. Et donc, l'épisode avec Claire Lambert, il a super bien fonctionné. En 24 heures, j'avais déjà 1000 écoutes. Donc, c'était la première fois, en fait, que j'ai eu 1000 écoutes en 24 heures. Donc, merci à vous. Et si vous nous rejoignez, bah, bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. J'ai plein d'activités. Je suis multi-investisseur. Et j'ai aussi pour objectif de voyager dans 10 pays par an. L'an dernier, j'ai acheté pour 1 million d'euros d'immobilier. Et les 10 pays cette année, on va être pas mal. On va être pas mal, je pense. Je vais bientôt en Italie et je vais bientôt en Angleterre. Donc, ça va un peu s'ajouter à... j'ai déjà fait Brésil, Turquie, Uruguay, Argentine cette année. Donc voilà, on perd pas le nord, hein, comme on dit, pour prendre le soleil et puis aller un peu visiter les quatre coins du monde. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, j'ai pu, donc ça s'est fait super vite, visite le samedi 29. Le jour même, je lui ai fait le bail. Moi, je fais des baux électroniques. Je lui ai envoyé, il a signé, boum, le lundi, on a fait l'état des lieux d'entrée. Voilà, c'est l'avantage quand vous en occupez vous, même le 1er mai, alors que c'est férié, eh ben, j'ai mis mon locataire dedans. On a fait l'état des lieux et c'était top. Sinon, je vous avais dit dans l'épisode donc précédent avec Claire, Claire Lambert, ben, je pense qu'il vous a plu l'épisode. Et c'est vrai qu'elle a un sacré parcours. Elle a eu cette opportunité d'avoir le nomadisme digital en étant en CDI, ce qui est très très rare. Et on voit que ça a eu beaucoup d'avantages dans sa situation. Et puis maintenant, c'est une investisseuse quand même solide avec plus de 16 lots. Je vous avais dit que je faisais un test de mettre ma résidence principale sur Airbnb. Alors en fait, j'ai fait deux tests. Je vous en dirai plus dans les prochaines semaines. Mais j'ai fait souvent, donc moi j'habite tout seul. Souvent, il y a des jours où je suis tout seul chez moi. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, et très souvent je suis en voyage. Donc quand je ne suis pas là, j'ai mis tout mon appartement sur Airbnb. Et quand je suis là, j'ai mis quelques jours, alors pas du tout tous les jours pour pas que j'ai tout le temps des gens, mais vu que en fait quand je suis chez moi en général, ben je suis tout le temps de sortie et tout, enfin voilà, c'est assez rare que je passe une soirée complète chez moi, sauf quand j'enregistre les podcasts ou que j'ai mes élèves du Club Invest. Voilà, donc en fait, j'ai mis certains jours où je suis chez moi je suis en tout cas sur place, la chambre d'amis à louer. Pour test, hein, je vous avoue, je sais pas combien de temps je vais le faire. Donc là, je l'ai testé cette semaine. Ça, en fait, j'ai eu un invité, puis même parfois ils étaient deux, et c'était vachement cool et c'était super sympa. Ça m'a fait de l'argent. Je les ai vus en tout et pour tout en 4 jours. Je les ai vus, une heure. Et voilà, très sympa. Des gars qui venaient un peu de d'autres pays et tout. Donc c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié l'expérience. Là, c'était un peu un test. Voilà, je regarde un peu le calendrier, combien de jours je mets. Là, j'avais 4 jours, c'était trop, je trouvais. Donc, je vais limiter à 2 jours par semaine où ça arrive que j'ai quelqu'un. Et puis, les week-ends, ben voilà, j'ai ouvert les week-ends. J'ai des réservations, j'avais quelqu'un ce week-end. Donc, voilà. Pour moi, vraiment, donc ça a des contraintes, c'est sûr. Mais si vous n'avez pas d'argent... ou peu d'argent, ou que vous n'arrivez pas à épargner de l'argent, je pense que c'est vraiment la meilleure solution qui existe en ce moment. Alors bon, si vous avez des enfants, compliqué, mais bon, je connais des personnes, dont Nils, que j'ai eu sur le podcast, qui loue une partie de sa résidence principale sur Airbnb. Si vous êtes célibataire et tout seul, franchement, allez, enfin moi, je vous le conseille, allez-y. J'ai pris en une semaine à peu près 1000 euros de réservation, donc pas 1000 euros les gens qui ont séjourné, mais 1000 euros de réservation. Et ben voilà, c'est, je pense, le meilleur moyen d'épargner 1000 euros en 2023 parce qu'en gros, sinon on a plein de coûts fixes. Et puis là, ben, vous rentrez des gens. Et puis franchement, en tout cas, ceux que j'ai eu, c'était sympathique. Il y en a peut-être qui vont me saouler. Peut-être que ça, dans 2 mois, j'aurai arrêté. C'est sûr que je vais pas le faire tous les jours, tout le temps chez moi. Voilà, faut aussi sentir chez soi. J'enregistre les podcasts et tout ça, ça me demande du calme. Mais l'expérience pour l'instant très satisfaisante. On va voir sur le moyen terme. Je sais pas combien de temps je vais faire ça, mais en tout cas, au moins quand je suis pas là, ça me paraît vraiment être une bonne solution pour financer comme je vous l'ai dit plus tôt, je vais dans 10 pays par an. Donc, ça fait en fait beaucoup d'argent sur lequel on s'assoit quand on n'est pas là. Moi, je sais pas, je dois. Il y a bien 100 jours par an où je suis pas là et ça se loue bien 100 euros par jour mon logement. Donc voilà, si vous faites les calculs, ça fait deux sous. Sinon, bah, je pense qu'on peut attaquer avec l'épisode. Ah, et puis sinon, bah, si vous voulez apprendre à tout ce que je peux vous proposer, c'est sur mon site www.grosbillet.com. Je peux vous apprendre à négocier. Donc, dans tous mes programmes, toutes mes formations, toutes mes vidéos, vous pouvez toujours, en plus des formations que vous avez un créneau pour m'appeler et discuter de votre situation, de votre projet. Voilà. Je sais que les vidéos, c'est bien beau. On peut apprendre beaucoup de théories avec. On peut apprendre beaucoup de théories basées sur l'expérience de, ben, par exemple, mon expérience. Ça fait maintenant 10 ans que j'achète des appartements. Et puis, j'en ai acheté quand même pour quelques millions d'euros. Hein. Donc voilà. Si vous voulez apprendre à négocier, c'est le moment ou jamais. Je pense que ça n'a jamais été aussi simple que depuis 10 ans pour négocier avec la hausse des taux. Si vous voulez savoir comment faire un dossier bancaire en béton où on a une membre du Club Invest qui a dit, qui a eu des super bons retours de sa banquière, qui a dit qu'elle était très impressionnée. Si vous voulez lancer votre podcast pour changer de vie, pourquoi pas, ma vie a énormément changé depuis que j'ai ce podcast, vous allez sur mon site grosbillet.com, les formations, on n'est pas là pour, on ne vit pas des formations. Ça soutient le podcast, ça me fait plaisir de vous appeler, d'échanger et de donner des bons conseils. Et si vous voulez aller à l'étape ultime, vous pouvez nous rejoindre au Club Invest, donc avec mon associé. On a un club dans lequel on aide plutôt les débutants, mais déjà, enfin, on va dire si vous avez entre 0 et 10 appartements, vous êtes les bienvenus. On a une place, on essaie toujours d'avoir maximum 10 membres. Là, on en a 9, parce que l'idée, c'est pas que les membres restent toute l'année. C'est voilà, vous faites un projet, deux projets, trois projets, vous partez, vous rentrez quand vous voulez. Voilà, Michel, mon associé, il a une place, je crois bien. Et donc, si ça vous intéresse, on peut s'appeler gratuitement et vous pouvez décider si vous rentrez au club ou non. Voilà, je pense que j'ai fini avec cette intro, comme toujours, un peu longue, mais voilà, c'est les retours. Je vous ai peut-être donné un conseil pour gagner plus de 1000 euros par mois avec votre résidence principale. En tout cas, posez-vous la question. Et ben, grâce à ça... Rien que ça, ça valait le coup d'écouter et je sais que vous écoutez en accéléré mes podcasts en x1, x1,5, x2. L'important, c'est d'apprendre comment faire des gros billets. Et donc aujourd'hui, on va attaquer avec la série How to Get Rich sur Netflix. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, mais je pense qu'ils l'ont laissé à How to Get Rich ou l'art d'être riche. Donc je l'ai regardé. Franchement, j'ai bien aimé la série. Le coach, il s'appelle donc Ramit, je ne sais plus comment. Je trouve que c'est plutôt un bon coach. Et donc, on va voir ensemble les enseignements qu'on peut tirer. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans cette série, c'est qu'il y avait 8 protagonistes, donc parfois des couples. Enfin, j'ai appelé ça protagonisme. Parfois, c'était des couples. Parfois, c'était des personnes seules. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment réussi à avoir des profils très différents. Donc, on attaque avec le premier couple, Matt et Amani. Alors, ce premier couple, Matt et Amani, il s'agit d'un couple. Ils ont 2 enfants, ils sont assez jeunes. Je pense qu'ils doivent avoir la 30aine maximum. Et le mari, Matt, il a arrêté de travailler parce qu'il était électricien itinérant, visiblement. Et donc, il était pas assez souvent à la maison. Donc, il a arrêté de travailler. Et sa femme, Amani, elle gagne, il parle de 27 000 $ par mois. Donc, c'est plutôt une bonne paye. Et c'est sûr que si on souhaite qu'un des deux arrête de travailler... Et ben avoir 27 000 euros de revenus chez pour un, ça doit suffire même aux US. Ce qui m'étonne toujours le plus aux US, c'est alors déjà les payes dans toute la série, les salaires des gens. Et moi, j'étais aux États-Unis l'été dernier. Tu vois que franchement, faut vraiment bien gagner sa vie. 5 000 euros par mois, c'est vraiment... Alors eux, ils ont les histoires de sécu, de retraite et tout ça. Mais 5 000 euros par mois, t'as l'impression que c'est vraiment la base pour une personne si tu veux vivre normalement, quoi. Elle est à 27 000 $ par mois. Donc, ce qui m'étonne toujours, c'est de 1, combien ils gagnent. Là, c'est quand même impressionnant. Les autres protagonistes, ils ne gagnent pas autant. Et en fait, c'est à quel point on sait tous que le droit du travail est très peu protecteur aux États-Unis. Je crois qu'il n'y a même pas de code du travail, si je ne dis pas de bêtises. Et à contrario, ils n'ont aucun argent de côté. Alors que c'est leur société. Elle est vraiment dans l'hyperconsommation, l'hyperdépense. Et si vous faites du business aux États-Unis, bah les gens ils peuvent dépenser beaucoup plus puisque non seulement ils ont un plus gros pouvoir d'achat et en plus ils dépensent tout quoi, voire plus que ce qu'ils ont. Alors qu'en France, non seulement les gens ils ont un pouvoir d'achat qui est moins élevé, et en plus, ben, on est connu pour épargner. Donc voilà, ça m'a toujours interloqué. Donc cette dichotomie, je sais pas comment dire, enfin en tout cas cette différence entre les revenus, gros revenus, droit du travail peu protecteur et très peu d'épargne. Après, je pense que leur marché du travail, il est beaucoup plus fluide qu'en France ou en Europe. Et donc, si vous perdez votre travail, vous pouvez en trouver un beaucoup plus facilement. Par contre, à mon avis, c'est très compliqué de trouver un boulot à 27 000 dollars par mois. Donc, si tu t'es habitué à avoir un train de vie de 27 000 dollars par mois, eh ben, tu risques de déchanter, quoi. Alors, ce qui se passe chez eux, je serai pour ce premier couple conseiller conjugal autoproclamé. J'ai une longue expérience. J'ai regardé plusieurs saisons de L'amour est dans le pré et de Marié au premier regard. Donc, je m'y connais fortement, vous en doutez. Alors c'est assez drôle, qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est moi j'adore regarder le body language, comment les gens ils se comportent, et c'est hyper flagrant que l'homme qui travaille pas, il est comme un petit écureuil apeuré comme ça, et puis sa femme elle prend toute la place, et lui donc il se sent pas considéré, et sa femme le considère pas parce qu'en gros il gagne pas d'argent. Et c'est vraiment intéressant ce body language parce que récemment je parlais bah, justement l'appartement dont je vous ai parlé en introduction qui s'était libéré. Je m'étais posé la question de le mettre en location courte durée. En fait, j'en parlais avec une investisseuse LCD, justement, et on faisait les pour et les contre, on faisait les comptes de savoir combien ça allait rapporter par rapport à ce qu'il rapportait maintenant. Et d'un coup, elle me dit, mais regarde-toi. Et j'étais tout fermé, en fait, quand j'avais les bras croisés, les jambes croisées, quand je parlais de mettre cet appartement en location courte durée. Et donc, elle m'a dit, il faut pas y aller. Et c'est vrai qu'elle avait raison. Et bah, en contrepartie, j'ai passé, bah, comme je vous ai dit, une partie de ma résidence principale quand je suis pas là, ou enfin, comme je vous l'ai dit en introduction, une partie, enfin ma résidence principale en partie en LCD, on va plutôt dire ça comme ça. Donc voilà. Donc l'homme, il a l'impression d'avoir fait des énormes sacrifices, Matt, pour mettre sa carrière de côté, pendant que sa femme, elle a l'impression de porter toute la famille sur ses épaules. Je vous la fais courte, il y a plein de drama, ça pleure, ça, ils veulent arrêter le show et tout. Donc ce que j'ai tiré comme leçon de ce couple, et après j'ai écouté un des podcasts de ce Ramit, ouais, je sais plus comment il s'appelle, son de famille, mais en tout cas c'était un an plus tard où ils en sont, et en gros ils sont pas beaucoup plus loin. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc ce que j'ai tiré comme leçon, c'est que l'argent dans un couple, c'est hyper hyper compliqué. Le plus simple, je trouve, c'est quand vous trouvez quelqu'un qui a à peu près le même niveau de revenu que vous, et le même niveau de patrimoine que vous, et les mêmes objectifs que vous. Sauf que plus on vieillit, plus c'est dur à trouver. Si vous le trouvez à 25 ans sur votre lieu de travail, ça se passe bien, ou quand vous êtes étudiant. Mais ensuite, ça se complique. Alors, et donc, en fait, là, c'est vraiment l'homme, le Matt, il a aucune autonomie dans les dépenses. Il sait même pas, je crois, combien sa femme, elle gagne. Il sait pas les dépenses qu'elles ont. Elle lui dit tout le temps, j'ai pas confiance en toi, j'ai pas confiance en toi, j'ai pas confiance en toi, alors que ça a pas du tout l'air d'être une personne très dépensière. Il a un peu un style comme ça, un peu crade, un peu genre comptable, voilà, ou prof de philo, une sorte de chignon et tout. Il fait pas rêver. Et donc, c'est toujours, enfin, c'est assez malaisant, en fait, comme situation quand t'as ta propre femme à qui t'as fait deux enfants qui te dit j'ai pas confiance, j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Du coup, j'ai regardé les causes de rupture. Je me suis dit, je vais regarder les causes de rupture, les 7 causes de rupture les plus fréquentes. 1, manque de communication et de compréhension mutuelle. Alors là, on est clairement dedans parce que bah, ils n'arrivent pas à discuter, et l'homme, il trouve qu'il a fait un énorme effort en arrêtant de bosser. La femme, elle trouve qu'elle fait un énorme effort en apportant tout l'argent dans le couple. Et donc, voilà, ça crée un énorme manque de communication, ça gueule, ça pleure et tout ça. Donc, ils sont bien dedans. Bon, visiblement, un an après, ils sont encore ensemble. 2, infidélité. Bah oui. Alors là, franchement, moi, sans être super expert, mais en gros, un homme qui se sent complètement, enfin, qui perd sa virilité avec sa femme qui lui dit « tu peux rien faire, t'as aucune autonomie », je pense que on n'est pas loin de s'il voit un peu une autre femme qui lui dit « ah, t'es beau, t'es fort et tout », aller vers elle, et la femme qui est bah, qui travaille beaucoup, qui est en mode businesswoman, peut-être qu'elle peut être attirée à un moment par quelqu'un d'autre qu'un homme au foyer. Donc voilà, l'infidélité, ça leur pend au nez, hein. Je pense que ça leur pend au nez, voilà. Après, le meilleur moyen de pas être infidèle, c'est d'avoir énormément de patrimoine en commun et et des millions d'euros de dettes communes, c'est le meilleur moyen de rester soudé dans l'adversité. Incompatibilité, troisième cause de séparation, incompatibilité ou différence irréconciliable. Bon, là, je sais pas si on peut dire vraiment qu'ils sont là-dedans. Quatrième cause, problème financier. Donc voilà, eux, non seulement ils n'ont pas de thunes, en plus ils savent pas en parler, en plus ils savent pas le gérer, alors qu'ils ont des revenus qui sont énormes. Ça peut vraiment les courir à leur perte. Donc voilà, prenez soin de vos finances, faites des gros billets, c'est le meilleur moyen pour que vous restiez amoureux et heureux toute votre vie ensemble avec votre moitié. 5, problèmes de santé mentale ou physique. Bon, là, on n'est pas dedans. 6, problèmes de confiance. La femme, elle fait que dire, je fais pas confiance à Matt, je fais pas confiance à Matt, je fais pas confiance à Matt pour gérer l'argent, alors qu'il s'occupe de ses gosses. Alors là, on est dedans. Et 7, changement de vie majeur. Bah là, ils sont carrément dedans. Il y a eu la naissance des enfants. Il y a eu le fait que un arrête de travailler, l'autre qui, elle, fait que prendre du galon. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Pour moi, ça sent la rupture. Et là, quand j'ai écouté le podcast un an plus tard, ben, donc en fait, c'est marrant, le Matt, il a créé, ils ont déménagé, je crois. Ils ont acheté une maison beaucoup trop chère. Le Matt, il a fait une location courte durée, donc si j'ai bien compris, dans une sorte de guest house qui devait être dans le jardin. Mais il avait toujours pas le droit d'accéder aux finances de la location courte durée. Et puis bon, gérer une location courte durée, ça fait un peu. Vas-y, je te donne ton truc pour que tu me laisses tranquille. Mais bon, voilà. Franchement, c'était un peu. Qu'est-ce que j'en ai retenu en fait de cette expérience? Donc déjà, l'argent, c'est toujours un gros problème dans le couple. Pour moi, quand on a des enfants, en tout cas, il faudrait mettre une bonne partie quand même. Il faudrait avoir. Enfin, après, ça, c'est mon avis. 3 comptes, un compte pour le mari, un compte pour la femme et un compte commun dans lequel il y a une grosse partie des dépenses qui partent. Là, je crois qu'ils avaient même pas de compte commun, si j'ai bien compris. Donc, en gros, le gars, il avait de l'argent de poche. Voilà, les rôles, ils pourraient être inversés. Ce serait tout aussi problématique, hein, selon moi. Et puis, en fait, après un moment, elle lui accorde quand même un peu de crédit. Et là, j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, ils ont pu regarder ensemble les factures qui partaient dans quoi et tout ça. Et ils ont pu en discuter. Et en fait, ça, c'est quand vous êtes à deux. Moi, je vois bien avec mon associé. Surtout maintenant, on se voit plus physiquement parce qu'il est au Canada. Il faut en fait faire le point de temps en temps parce que sinon, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on a l'impression qu'on a bien réparti les tâches et nous, 90% des tâches, elles sont bien réparties. Mais ensuite, il y en a où on pense que c'est l'autre qui s'en occupe et inversement. Et du coup, on peut avoir par exemple, des prélèvements on pense que l'autre, il sait ce que c'est et inversement. Et donc, en fait, on se fait prélever pour des choses qu'on veut pas, qu'on souhaite pas, des abonnements qu'on a depuis longtemps. Donc voilà, même si vous êtes à deux et que vous avez fait une bonne répartition de qui fait quoi dans les finances, je pense que c'est très intéressant à un moment de se poser. Nous voilà, on a planifié maintenant des calls, on s'appelle régulièrement pour en discuter, on repasse les comptes en revue, on regarde tout ce qu'il y a et puis ben on a vu qu'il y avait pas mal de trucs à faire d'ailleurs la première fois qu'on a fait cet appel. Parce que bah forcément on l'avait jamais fait donc on voyait qu'il y avait des virements parfois c'était des petits trucs c'était juste un virement d'une assurance qui partait du mauvais compte parce que nous on a énormément de comptes vu qu'on a des comptes pour chaque bien donc voilà on essaie un peu de mettre tout ça au clair c'est tout ce que je peux vous conseiller mettez au clair vos finances de temps en temps si vous avez un associé si vous avez un conjoint et ensuite pour l'argent franchement quand il y a des énormes différences de revenus alors là vu qu'ils ont les enfants bon bah pour moi en tout cas faudrait faire quasiment tout en commun, vu qu'il y en a un qui s'occupe des enfants et puis l'autre qui ramène l'argent. Mais en tout cas, voilà, un peu d'autonomie chacun et une grosse partie en commun, je pense que c'est le mieux. Et après, sinon, c'est hyper compliqué quand vous avez des couples. Souvent, on me sollicite à ce sujet. Ouais, voilà, je vais habiter avec mon copain, je gagne plus que lui. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on répartit? Ou moi, j'ai un enfant, lui, il n'en a pas. Notre enfant, il va habiter, bah, mon enfant, il va habiter avec nous. Comment on se répartit et tout. Vraiment, vraiment pas évident. Surtout quand il y a, par exemple, des histoires de quelqu'un a plus de patrimoine, mais moins de revenus. Donc, l'autre qui a plus de revenus, il se dit, bon, bah, vu que j'ai plus de revenus, je vais quand même contribuer plus. Mais en fait, à la fin, s'ils se séparent, bah, celui qui a le plus de revenus, il a quand même toujours beaucoup, beaucoup moins de patrimoine que le premier. Donc, pas évident, mais essayez de mettre les choses au clair rapidement et faites pas des trucs, je sais pas, j'entends parfois, ouais, lui, on habite dans mon appart, en contrepartie, il fait les courses, je sais pas quoi, essayez franchement de faire un compte commun, faire un virement fixe et puis après, d'une partie de vos revenus, voilà, ça peut être proportionnel, hein, ou en partie proportionnel, parce que quand on gagne trois fois plus, on a aussi parfois des charges incompressibles. Donc, c'est peut-être pas, on pourra peut-être pas contribuer trois fois plus, mais peut-être deux fois plus au compte commun. Mais en tout cas, posez-vous la question. Il y a plein d'applications pour avoir des comptes communs. Vous pouvez aller même sur Revolut. C'est simple. Vous faites un virement tous les mois. Tous les deux, vous avez une carte. Et voilà. Mais parlez-en dans votre couple. C'est important. Qui a quoi? Qui fait quoi? On attaque avec le deuxième couple, Monique et Donnel. Alors, Monique et Donnel, je pense que c'était mes protagonistes préférés, mon couple préféré, c'était très sympathique. Alors, écoutez bien, ils ont 37 et 40 ans, 3 enfants, un petit-fils. Ils gagnent 93 000 $ par an et ils ont une épargne de 10 000 $. Voilà, les chiffres sont dits, 93 000 $ de revenus, 10 000 $ d'épargne. On voit que la vie aux US, elle coûte très cher. C'est aussi ça qui fait qu'ils ont peu épargné. Alors eux, leur rêve, c'est d'acheter une maison. Mais franchement, ils sont super endettés. Ils n'ont pas d'argent. Et visiblement, aux US, alors je ne sais plus si c'est 10 ou 20%. En gros, il faut mettre, je crois que c'est dans les 20% d'apport. Ce que je sais des US, alors peut-être que quelqu'un pourra me contredire si ce n'est pas le cas. Mais en fait, aux US, vous n'êtes pas vraiment caution perso comme en France. Si vous ne remboursez pas votre maison, on peut vous saisir... sur votre salaire. Aux US, vous avez une hypothèque sur la maison et si vous pouvez plus payer, eh ben on saisit la maison et vous devez plus rien. En gros, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, voilà, la garantie, elle est sur le bien et pas forcément sur vos revenus. Donc, ça explique forcément qu'il faut mettre de l'apport parce que, la banque, elle a que ça comme garantie. Je suis pas sûr et certain que ça se passe exclusivement comme ça, mais en gros, c'est comme ça que ça... Dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça se passe. On va dire en tout cas que le bien est beaucoup plus important que votre situation, alors que en France, en Europe en général, c'est plutôt votre situation qui est plus importante que le bien. Vous pouvez acheter, vous pouvez surpayer un bien. Si vous avez des revenus suffisants, la banque, elle va pas forcément vous embêter. Alors qu'aux US, vu que c'est la seule garantie, souvent, ils font venir d'ailleurs un évaluateur, je crois, pour s'assurer que la maison, elle vaut bien ce que vous payez, ou en tout cas, ce que vous empruntez. Donc voilà, la maison, le rêve de beaucoup. Je ne sais pas si c'est le vôtre ou non, ça dépend, je pense, où vous habitez, ça dépend de plein de facteurs. Personnellement, moi, la maison, j'aurais pas du tout le temps de m'occuper d'une maison. Donc, même si je pouvais payer une maison, c'est vraiment le jardin, tout ça, les trucs, la chaudière qui tombe en panne, les inondations et tout ça. C'est vraiment pas un truc qui m'attire, mais je peux comprendre que c'est le rêve de beaucoup. Et aussi, moi, je suis pas souvent chez moi, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc, si c'est pour rentrer, faut tourner de la pelouse, faut passer le Karcher dans l'allée, tout ça, repeindre le garage. Eh ben, ça m'attire pas du tout. Mais bon, je peux comprendre, et surtout quand on a 3 enfants et un petit-fils, que c'est un peu, que ça puisse être un objectif. En tout cas, ça pose la question de la résidence principale. C'était pour ça que je voulais aborder le sujet. Être propriétaire ou non de sa résidence principale, on en parle souvent. Il y a eu pas mal de discours au début, ça a été un peu la mode de dire que c'était pas forcément utile d'être propriétaire de sa résidence principale. Alors je vais vous dire mon point de vue, si vous habitez en France, si vous habitez ailleurs, je pense que c'est vraiment différent. Mais en fait en France, le problème qu'on va avoir, c'est que c'est compliqué de louer dans plein de cas. En fait, si vous n'êtes pas en CDI, en gros... ça va être super compliqué d'avoir un logement. Je vous explique là, l'appartement que j'ai mis en location, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il gagnait 2 400 € de chômage par mois. 2 400, l'appartement, je le louais 600. 2 400 € de chômage par mois, il m'a dit qu'il a encore 450 jours de chômage, il m'a envoyé les justificatifs. Et en fait, il avait pour projet d'ouvrir une société. Et c'était une société qui avait l'air de tenir la route, hein. C'était pas un truc CBD ou je sais pas quoi. Et il dit qu'il trouvait pas de logement. Et forcément, il trouvait pas de logement parce que il était pas éligible à Visa. Il avait pas de garant. Il m'a dit que sa mère, elle était malade et tout. Je sais pas quoi. Mais voilà, on voit bien. En fait, c'était, je pense, celui qui m'a contacté qui avait le plus de revenus. 2 400 € pour 600 €. Donc, il peut payer largement. Sa société, ça se trouve, elle va bien marcher. Mais moi, je l'ai pas pris parce que je préfère les candidats qui ont une garantie Visa. Une garantie. Donc, c'est souvent les gens qui ont moins de 30 ans ou qui gagnent... pas super bien leur vie. Donc voilà, pour moi c'est simple, vous avez Visal, vous rentrez, vous l'avez pas, si j'avais pas eu d'autres candidats, ça aurait été différent. Mais ça m'a quand même mis la puce à l'oreille de même si en fait dès que vous êtes si vous, en tout, Si vous avez pour projet à un moment, si en ce moment vous êtes en CDI et vous avez pour projet de lancer votre société, de vous mettre à votre compte, etc., acheter sa résidence principale, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment indispensable parce qu'après, vous n'allez trouver aucun logement. Idem, quand vous êtes âgé, vous savez, en France, les personnes âgées, on ne peut pas les sortir des logements. Donc, à la base, c'est comme souvent en France, c'est, ça part d'une bonne idée, d'une bonne intention. Mais la conséquence de ça, c'est que les vieux, enfin, les personnes âgées, pardon, et ben souvent, ils trouvent pas de logement parce que, alors, je dis pas que je fais de la discrimination, mais c'est vrai qu'entre deux candidats, si vous avez un candidat qui a 30 ans, la garantie visale, et une personne âgée qui veut rentrer dans le logement, la personne âgée, ça se trouve, elle va rester plus longtemps. Mais le problème, c'est si vous avez déjà un appartement qui a pris de la valeur, maintenant vous avez acheté un appartement 50 000 euros, maintenant il en vaut 100 000, nous c'est le cas avec mon associé, on a un appartement comme ça, et on avait eu à un moment une candidate qui avait, je sais plus, 70 ans. Sauf que cet appartement, on ne savait pas si on allait le garder ou le vendre. Et si vous vendez un appartement loué, ça a beaucoup moins de valeur parce que vous ne pouvez pas le vendre pour des gens qui veulent habiter dedans. Voilà, plus compliqué en tout cas dans plein de points de vue. La rentabilité, ben, elle est bonne quand on l'a payé 50 000 euros, mais quand on l'a payé 100 000, elle n'est pas super. Donc tout ça fait qu'avoir un locataire qu'on ne peut pas sortir, ça peut vous pénaliser. Sauf si c'est un appartement, par exemple, vous avez refait, vous voulez le garder longtemps et dans une bonne copro et tout. J'en ai un comme ça hein, que j'ai acheté récemment. Là, ça ne m'aurait pas embêté d'avoir quelqu'un pour longtemps, mais sinon, vous êtes bloqué avec ce type de locataire. Donc, ça fait que quand vous allez rechercher des logements, si vous êtes âgé, en plus, si vous êtes âgé, peut-être que vous ne connaissez pas les bons... maintenant, peut-être que vous n'allez pas directement écrire sur le bon coin et tout ça. Ça fait que ça complique énormément votre situation. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous avez pour projet d'être âgé un jour, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, être freelance, changer de métier, changer de pays. Acheter sa résidence principale, ça peut être vraiment une très très bonne idée. Ou alors, ce que vous pouvez faire, ce que j'ai fait moi, je ne sais pas si un jour je vais rentrer en France, mais je sais que j'ai un appartement qui se prêterait bien au fait que si un jour je rentre en France, je pourrais habiter dedans. Donc j'ai acheté un appartement, je l'ai un peu surpayé. Je ne me suis pas basé que sur la renta pour celui-là, je me suis basé sur le lieu. Tout bête qu'il ait un parking, moi, si je peux pas me garer juste devant chez moi ou juste en bas de chez moi et que je dois chercher une place tous les soirs pendant 10 minutes, ça, c'est inconcevable. Donc, en fait, j'ai acheté un appartement où je sais si un jour il y a un problème, et je dois rentrer en France. En tout cas, si je veux rentrer en France un jour, je sais que je peux loger là-dedans. Et c'est vraiment la recommandation que je peux vous donner par rapport à donc ces personnes-là qui veulent acheter leur propre maison. En tout cas, essayez d'avoir soit une résidence principale là où vous habitez, surtout dans les villes où c'est pas cher, où l'immobilier est pas cher. Si vous venez, je sais pas, d'Orléans et que vous habitez à Paris en ce moment, acheter à Paris, c'est peut-être pas une bonne idée, mais peut-être acheter quelque chose à Orléans pour vos vieux jours si vous voulez retourner là-bas ou que sais-je, ça peut vraiment changer votre vie plus tard. Donc réfléchissez toujours à voilà, j'habite à un endroit X, à la limite, c'est pas grave de pas être propriétaire de l'endroit où j'habite, mais réfléchissez toujours à, dans 10 ans, dans 20 ans, je vais habiter où ? Et donc, avoir un appartement qui existe pour ça, ça peut vraiment être très utile. Après, vous avez toujours l'autre possibilité, de vous dire, j'achète que des appartements que je loue, et puis si vraiment un jour je trouve plus de logement, je vends un appartement, et avec l'argent, j'habite ailleurs. Mais avoir un appartement payé dans un endroit où vous pouvez habiter, c'est vraiment utile. Voilà, si vous êtes, si vous venez du Grand Est comme moi et que vous avez acheté à Narbonne ou à Béziers parce que c'est rentable et que vous connaissez personne là-bas, pas vous dire, si un jour il y a un problème, je vais habiter à Béziers. Non, vous connaissez personne, vous n'avez pas envie d'habiter là-bas. Donc, voilà. Posez-vous la question, où est-ce que je vais habiter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que j'ai une solution de repli si personne veut me louer d'appartement? Et pourquoi est-ce que personne ne vous louerait d'appartement? Parce que vous n'avez pas un CDI. En gros, c'est ça. Et parce que vous n'avez pas de garantie ou de garant ou vous êtes trop âgé. Après, ce que je retiens des deux, là, de Donnel et Monique, je crois qu'ils... Ouais. En fait, ils avaient un garde-meuble. Alors, le garde-meuble, c'est... Déjà, je retiens, ils sont hyper consommateurs. Elle a lancé sa société. Ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un bon mois. Elle achète un sac à 1 500 $. Différence avec la France, après elle va le ramener, visiblement aux US, tu peux beaucoup plus facilement ramener les articles, tu le vois souvent dans les films et tout. Et lui, il s'achète, soi-disant c'est pour le boulot, mais il s'achète, je sais plus, 5-6 jeans et des paires de baskets à foison sur Amazon. quand on voit les budgets des gens sur Amazon aux US, ça fait assez peur. Hein. C'est vite du 2 000 $ par mois. Je pense qu'ils se font aussi livrer de la nourriture et ça, peut-être, mais c'est assez impressionnant l'argent qu'ils dépensent sur Amazon. Ce que je retiens, donc déjà, ils sont hyper consuméristes, mais bon, ça, c'est la société américaine qui veut ça. Et bon, en France, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont aussi un peu là-dedans. Mais surtout, et ça, je pense qu'il y a presque tout le monde qui est concerné, ils ont trop d'objets. Eux, carrément, ils louent un garde-meuble pour 400 $ par mois. Donc, ils ont 10 000 $ d'épargne, y compris leur plan retraite complémentaire. Pas leur plan, si j'ai bien compris, aux US, il y a quand même un plan retraite plus un plan retraite du style PER en France. Un plan de retraite individuel. Ça s'appelle un 401k, je crois. 401k, un truc comme ça. Et en tout cas, donc ça, les 10 000 $ qu'ils ont d'épargne, il y a genre 8 000 sur leur compte épargne retraite. En gros, ils ont 2 000 $ vraiment, vraiment de côté et ils louent un garde-meuble pour 400 $ dedans par mois. Et dedans, il y a que des affaires qui servent à rien. Le garde-meuble, c'est un méga bon business. C'est vraiment une machine à cash. Moi, dans mon vrai travail, j'ai travaillé avec une société dont c'était l'activité. J'ai vu les comptes, j'ai vu la renta. C'est un truc de malade. Ça crache à fond. C'est assez cher, en fait. Hein. C'est plus cher de louer des mètres carrés souvent dans ces garde-meubles qu'un studio dans une ville de province, alors que c'est juste un garde-meuble. Les gens, une fois qu'ils ont loué, ils veulent plus s'en débarrasser. Ils veulent pas vider le truc. Voilà, c'est hyper pérenne. Si vous êtes le loueur, vous êtes bien. Si vous êtes le locataire, franchement, c'est la plaie. Et du coup, en fait, ils montraient à un moment, en gros, ce qui avait le plus de valeur dans leur garde-meuble, c'était un micro-ondes à 60 $. Donc, ils louaient 400 $ par mois pour un micro-ondes à 60 $. Au moment, le Ramit, là, donc le coach, il leur dit, mais combien de temps vous allez mettre pour tout vendre? Il leur dit, il répond, ouais, on a besoin d'au moins 3 mois. Mais lui, il dit, mais vous pouvez pas passer 3 mois pour vendre que des vieilleries. Vous avez déjà payé 1 200 $ de location en 3 mois. Débarrassez-vous de toutes les affaires. Donc, et c'est ce qu'ils font, ils font une sorte de marché aux puces à un moment de la série. Donc, ce que je peux vous dire, moi, c'est la technique que j'utilise quand il y a des affaires dont je veux me débarrasser. Là, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et c'est hallucinant les affaires qu'on a. On ne s'en rappelle même plus tout ce qu'on a. Et pourtant, quand on voyait mon appartement, il avait l'air assez dépouillé. Et puis après, on ouvrait les placards. J'avais plein de trucs, j'avais une cave qui était assez grande et tout. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, et j'ai déjà fait plein de fois. Quand je veux me débarrasser d'un truc, je le mets hyper pas cher sur Le Bon Coin ou Facebook Marketplace. Style, j'avais 4 jantes pour mon Audi qui était rayé et tout. C'était pas des jantes Audi. Hein. Je les ai mis à 50 €. J'ai un gars qui est venu dans la journée. En fait, j'en avais même 8. J'avais 4 jantes été, 4 jantes hiver. Il est parti avec tout et c'était réglé. Franchement, rien que les porter, c'était au moins 2. Enfin, c'était la galère. Le gars, il était super baraque, il m'a même donné une bouteille de crémant. Donc voilà, pareil, on m'avait offert une tireuse à bière il y a quelques années. Je m'en étais un peu servi quand j'avais des potes qui venaient, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'une tireuse à bière? Boum, je l'ai mis, 50 €, c'est parti dans la soirée. Donc quand vous avez des objets qui, ben voilà, dont vous servez pas, je sais que c'est horrible d'aller à la déchetterie, vous faites gueuler dessus, vous ne savez jamais dans quel bac c'est et tout. Donc forcément, il faut y aller à la déchetterie de temps en temps. Mais sinon, brader les objets sur Le Bon Coin. Essayez pas d'en tirer les 10 euros de plus. Moi, j'avais essayé avec une console, une PlayStation 4, je me souviens, de la vendre au meilleur prix. Puis en fait, 2 ans après, je l'ai toujours cette console parce que j'avais pas voulu négocier suffisamment. Donc, mettez les objets pas chers. Il y a des gens, c'est hallucinant, il y a des gens, ils cherchent, ils sont tout le temps là à chercher les objets pas chers. Et faites en sorte de vous en débarrasser, ça vous fera du bien à l'esprit, ça vous fera du bien même, c'est pour prendre 50 €, vous pouvez aller au resto avec ça, et ça vous fera plaisir, mais en tout cas, simplifiez au maximum, et surtout ne payez pas pour du stockage, voilà, il faut que ce soit hyper, hyper, hyper temporaire, dites ouais, pour 1 mois, 2 mois, là je déménage entre 2 trucs, et ensuite vous le rendez direct, payez pour du stockage, c'est horrible. Et moi, je sais pas si je vais le faire, mais j'ai des appartements avec des caves et je me tâte à les louer à part parce que je suis sûr que ça se louerait trop bien. Enfin, je sais pas, peut-être 30-40 € par mois. Et les gens, après, une fois qu'ils ont mis leurs affaires, à mon avis, ils gardent ça des années. Donc, c'est un bon moyen, je pense, d'augmenter la rentabilité d'un appartement. Je sais pas, que vous louez 500-600 € par mois, louez la cave à part eh ben, c'est pas ça qui va faire que vous louez ou pas, je pense, que le fait qu'il y ait une cave. Mais par contre, si vous louez à part, le truc, ça, ce sera un bon business. Après, faut voir ce qu'ils mettent dans les caves. Pas que ce soit des autoradios volés ou des trucs comme ça. Mais voilà. Simplifiez au maximum. Ne vous encombrez pas avec trop d'objets si possible. Et vendez si nécessaire. Et pour, donc eux, ils ont un projet de maison. Franchement, je sais plus combien ils ont de dettes, mais ils ont énormément de dettes avec ce qu'ils arrivent à épargner. Je suis désolé pour vous, mais à mon avis, 37 et 40 ans, la maison avec vos enfants, ça semble râpé. Hein. Vaut mieux être locataire d'une maison si vous en trouvez une, mais sinon, trop compliqué. Trop compliqué, je sais pas, ils ont au moins 10 ou 15 ans pour rembourser leur dette. On attaque troisième personnage. Donc là, c'était vraiment les personnages, il y avait beaucoup à dire, je trouvais. Et après, on attaque avec le troisième personnage. Alors, on attaque avec Nathalie, troisième personnage. Nathalie, c'est une sacrée personnalité hein, quand vous la voyez. Elle est super. Alors, on peut pas, je sais pas si on peut dire qu'elle est riche. En tout cas, elle a un train de vie de blindé. Il commence la série, elle vient chercher. Donc, il s'appelle Ramit Sethi. J'ai été checké. Elle vient chercher Ramit sur Rodeo Drive, donc la rue la plus chic de peut-être des États-Unis, la rue la plus chic de Los Angeles à Beverly Hills, si je dis pas de bêtises. Qu'elle vient le chercher en Ferrari. Et elle a de l'argent, visiblement, de son divorce. Alors, elle dit qu'elle reçoit 25 000 dollars de pension alimentaire par mois. Franchement, et ça, c'est vraiment une réflexion que je vous pousse toujours à faire, toujours, toujours, toujours à faire. 25 000 dollars, ça peut paraître beaucoup par mois. Et quand on voit son train de vie, elle a beaucoup plus que ça. Elle a dû, peut-être, quand ils se sont séparés, elle a dû hériter d'argent avec son mari, ou son ex-mari. Mais voilà, 25 000 dollars par mois. Est-ce que avec ça, tu te payes la Ferrari plus ton train de vie? Voilà, elle achète que des trucs, des vêtements de créateurs, elle a quatre chiens. Enfin, c'est un peu un cliché de l'américaine, voilà, de la, je sais plus, il y avait une série comme ça, Housewives, Real Housewives, je sais pas quoi. C'est un peu un cliché. En tout cas, elle claque dans tous les sens, du shopping, il y a que des méga marques. Elle a essayé d'ouvrir un restaurant de poulet rôti. C'est assez drôle, l'autre jour sur Instagram, il y avait écrit les différentes phases du couple. Alors, c'était, vous avez rien, donc vous bossez pas tous les deux. Après, vous êtes un peu riche, vous bossez tous les deux. Vous commencez à être riche, il y en a un qui travaille, l'autre qui travaille pas. Vous êtes très riche, il y en a un qui travaille et l'autre qui a un business qui coûte 10 000 dollars par mois. Voilà, c'était un peu le cas, visiblement, de cette Nathalie. Donc, elle voulait lancer un resto de poulet rôti, si j'ai bien compris, Coco Queen. Elle avait un budget de 250 000 dollars et elle a dépensé 1,5 million au final pour son resto qui a été fermé. Au début, ça marchait bien. Puis après, avec le Covid, ça a fermé. Et donc, en gros, il lui restait plus rien de son resto et des 1,5 million qu'elle avait. Donc après, elle avait quand même une maison et tout ça. Mais je veux dire, elle a vraiment, on a l'impression en tout cas qu'elle a brûlé 1,5 million. Quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment une bonne réflexion qu'on peut avoir et que j'ai eue. C'est pas parce que vous allez faire un business dans lequel vous allez gagner de l'argent. Forcément, pour lancer un business, pour gagner de l'argent, il faut dépenser un peu d'argent. Mais il faut vraiment toujours essayer de faire ça à moindre coût. De voir dépenser le moins possible pour votre business. C'est pas vous dire, bon, de toute façon, ça va me rapporter, du coup, je vais dépenser. Typiquement, là, moi, dans ma chambre d'amis, je vous donne un exemple très concret. Dans ma chambre d'amis, j'avais pas de télé. Et là, j'ai acheté une télé. J'ai demandé, d'ailleurs, j'ai fait un sondage. Merci à tous ceux qui ont répondu sur quelle télé prendre. J'ai acheté une télé à 160 € sur de Electro-Dépôt. Beaucoup de gens m'ont conseillé ça. Donc, Electro-Dépôt ou alors la marque Continental Edison, je crois, de c'est Cdiscount, je crois. Voilà, ça, c'est les télés qui m'ont été recommandées. Donc, je vais essayer. Visiblement, il y avait des bons retours. Donc, je n'ai pas payé cher. Ça, je ne vais pas acheter une télé où je vais mettre 2 mois à rentabiliser le prix de la télé dans les LCD. Quoi. Donc, c'était un peu l'idée. Et il faut toujours se poser la question, voilà, quand vous lancez un business, il y a des outils qui sont utiles, des outils en ligne et tout ça. Pourquoi pas payer un petit peu, 20 $, 30 $, 50 $, 100 $ pour essayer des outils qui vont vous aider. Mais posez-vous toujours la question, c'est pas, en fait on a trop tendance, je trouve, si on sait qu'on va gagner de l'argent, à en dépenser plus. En se disant, de toute façon je vais gagner, donc il faut bien investir. Enfin, voilà, on est vraiment dans l'idée investir pour avoir du retour. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, mais toujours maîtriser les coûts. parce que sinon vous allez mettre des mois, des années, etc. à récupérer l'argent. Idem quand vous avez un appartement en location longue durée meublée, que vous posez la question de faire de la location courte durée, souvent ça nécessite un investissement. Toujours bien mettre les chiffres pour regarder est-ce que si je dépense 8-10 000 euros pour refaire l'appartement, je vais réussir à le rentabiliser avec ma location courte durée. Très souvent, la réponse est non. Une fois qu'on a mis tous les chiffres l'un derrière l'autre. Donc voilà, faites toujours bien attention quand vous lancez un business à combien ça vous coûte et pas juste combien ça va vous rapporter. En plus, combien ça va coûter, on a la maîtrise dessus. Combien ça va rapporter, elle, son resto de poulet rôti. Lui, il demande de faire un business plan. Ok, on peut faire un petit business plan, mais dans tous les cas, on ne sait pas s'il va y avoir 10 clients, 20 clients, 30 clients, 100 clients, même si on peut toujours essayer d'en faire plus. Mais dans ce type de business, on ne sait pas vraiment les revenus, combien ça va être, et ça peut varier. Et puis, s'il fait chaud, s'il fait froid, etc., en fonction des jours, vous allez avoir plus ou moins de clients. Donc, maîtriser les coûts, c'est le plus important. Et ensuite, voir comment augmenter le chiffre d'affaires tout en limitant les coûts. Ce qu'on peut retenir aussi de cette Nathalie, c'est qu'à un moment, elle a vendu sa maison. Je crois qu'elle l'a vendu 2,2 millions de dollars, si je dis pas de bêtises. Donc au début, parce qu'en fait, elle disait que ça coûtait trop cher la maison, etc. Le Ramit, il était assez content de cette décision. Puis en fait, il s'est rendu compte de quoi. Après, elle l'appelle, qu'elle lui dit « Ouais, j'ai trouvé une autre maison, je vais racheter une maison parce qu'en fait, quand j'arrive pas à trouver de location pour mes 4 chiens. » Donc là, c'est vrai. Bon, après, on est dans des autres budgets, mais c'est un peu comme je vous disais avec la résidence principale. Si vous avez 4 chiens, ça va être chaud de trouver une location. Idem, si vous êtes fan de... Si vous voulez absolument une maison, une piscine, un jardin, tout ça, c'est des biens qui sont assez difficiles à trouver en location dans plein d'endroits. Donc, alors, ça peut être une niche si vous voulez louer. Mais sinon, parfois, en fait, il faut être obligatoirement propriétaire pour avoir ce type de logement. Typiquement, des logements avec piscine, personne n'est prêt. Une piscine, je ne sais pas combien ça coûte. Si vous lissez en fait le coût de la construction, de l'usure et tout ça, ça doit coûter très vite 200, 300, 400 euros par mois. Personne n'est prêt. Tout le monde veut des maisons avec piscine quasiment. Mais personne n'est prêt à payer 300, 400 euros par mois de plus pour avoir une piscine. Alors qu'en fait, c'est le vrai coût. Mais vu que quand on fait la piscine, ça coûte 50 000 euros. Et puis ensuite, on repaye 10 000 euros 20 ans plus tard. Et puis ensuite, c'est pas lissé, on s'en rend pas bien compte, mais tout le monde voudrait des maisons avec piscine, mais en fait, c'est pas rentable d'avoir une maison avec piscine en location, du coup, il y en a quasiment pas. Voilà. Donc, elle, en gros, elle dit, elle dit qu'elle a vendu sa maison, et après, elle lui explique qu'en fait, elle va acheter une autre maison, mais c'est moins cher parce que c'est à 1 heure de là où elle vit, et qu'après, elle va mettre 300 000 euros de travaux. Donc, franchement, c'est pas une super bonne décision selon moi et selon le Ramit non plus d'ailleurs. En fait, l'important, je trouve, quand on choisit l'endroit où on vit, c'est quand même le trajet par rapport à là où on va le plus souvent. Si vous allez souvent au bureau, faut habiter proche de son bureau, tout simplement. Si vous allez souvent, à la piscine, à la patinoire, s'approcher le plus possible, pour moi, c'est plus important que l'espace qu'on a. Après, c'est chacun sa vision, mais tout le monde, on le sait, le temps, on le récupère pas, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, faire perdre des heures chaque jour pour juste économiser sur l'endroit où on vit, je trouve que c'est pas un bon plan, surtout qu'après, en général, on revend au prix de l'endroit, quoi. Donc, si c'est trop cher d'habiter un endroit, peut-être vous pouvez habiter dans plus petit, puis après, vous vendrez aussi cher. Alors que si vous allez habiter dans un endroit où c'est moins cher, vous vendrez aussi moins cher, alors que votre temps, vous le récupérez pas. Et ensuite, 300 000 euros de travaux, mais c'est de la folie. On ne sait jamais combien de temps on va rester. Typiquement, elle a des filles, elles sont déjà ados, elles sont déjà étudiantes, je crois. Ça se trouve, elle ne va pas rester super longtemps dans cette maison. Et les travaux, franchement, sauf si ça a été vraiment pensé en mode revendre plus cher, sinon, on ne les récupère jamais. Donc, faire très, très attention quand on fait des travaux. Si c'est pour remplacer un truc qui ne fonctionne pas ou qui a vraiment 50 ans, ça vaut le coup. Si la couleur des murs, elle ne vous plaît pas, mais que ça a été fait, ou la cuisine, mais que ça a été fait récemment, vous n'allez jamais retrouver l'argent des travaux. Donc, très, très attention avec les travaux. Et en fait, ça m'a rappelé l'histoire du livre de 50 Cent, là, que Tony nous avait conseillé. En fait, 50 Cent, il avait racheté la maison de Mike Tyson, je crois, et c'était beaucoup trop loin de New York. Il disait qu'il passait trop de temps alors qu'il avait un chauffeur sur la route et tout ça, et qu'au final, il a vendu sa maison de fou avec, 20 salles de bain, etc., Il avait payé, je crois, 50-60 millions pour habiter dans un appartement à New York où il est beaucoup plus proche de ses activités. Et donc, même si ça s'applique à 50 Cent qui avait 50 millions de budget pour sa maison, ça peut s'appliquer à vous. Voilà. Posez-vous toujours la question, où est-ce que j'habite par rapport à... où est-ce que sont mes centres d'intérêt et les endroits où je vais plusieurs fois par semaine. Et ensuite, deuxième point, donc en fait, elle voulait mettre une partie de l'argent de sa maison, donc dans la nouvelle maison, de la vente de sa maison. Et le deuxième point, c'était, elle voulait confier de l'argent à un conseiller financier qui se payait avec une somme de la... Apparemment, c'est assez courant aux États-Unis, en France aussi, je suppose, hein. Mais en gros, il se paye avec un pourcentage de la somme confiée, visiblement 1% de la somme. Donc là, le Ramit, il explique que payer proportionnellement des frais de gestion, ça n'a pas de sens, qu'il vaut mieux en fait payer quelqu'un à l'heure que... En fait, c'est un, quand on est... Là, on est dans le business. Nous, voilà, c'est bien de prendre des pourcentages, d'avoir des revenus récurrents et tout. Mais quand c'est... Donc ça, c'est quand c'est vous qui vendez quelque chose, quand c'est vous qui payez quelque chose, prendre quelque chose qui est basé sur un pourcentage, bah, ça va être très mauvais. Et au final... Pourquoi prendre un pourcentage? Je veux dire, gérer un portefeuille de 100 000 euros ou 300 ou 400 000 euros, c'est quasiment le même travail. Il faut juste, au lieu d'acheter une action LVMH, vous allez en acheter quatre. Mais en gros, c'est pareil. Donc, pourquoi payer en pourcentage et pas des montants fixes? Donc, lui dit, va plutôt voir des conseillers financiers, même si tu les payes 500 euros l'heure, ça va te coûter moins cher que là, le gars qui prenait 1%, donc c'était du 10 000 euros par an. Et surtout qu'on est, on sait pas qu'est-ce qu'il va faire, quels sont les résultats auxquels il va arriver. Et en fait, ça joue sur les intérêts composés. C'est assez intéressant de voir dans un livre, j'avais vu les calculs. En fait, vous allez vous dire, OK, je vais payer 1000 euros. Admettons, là, elle avait 1 million d'euros. Donc elle avait 1% de frais de gestion. 1%, ça faisait quoi? Ça faisait 10 000 dollars par an. Donc on peut se dire... Sur 10 ans, globalement, ça va faire 10 000 fois 10, 100 000. Mais en fait, quand vous regardez les calculs, ça vous coupe tout le temps l'herbe sous le pied. Parce qu'au final, payer comme ça, c'est 10 000 euros chaque année. Votre portefeuille, il fait 10 000 euros de moins. Et du coup, il va moins prendre, on va dire, il aura moins de... C'est comme une voilure. Elle sera plus faible. Et en fait, si vous regardez sur entre un portefeuille avec 1% de frais de gestion et je sais pas, 0,2%, eh ben, la différence, elle est colossale sur 10 ans ou 20 ans parce qu'en fait, ça fait des intérêts composés, mais qui jouent contre vous. Normalement, on essaie de faire en sorte que les intérêts composés, ils jouent pour nous, donc ils nous enrichissent de plus en plus. Mais là, en fait, ça vous coupe tout le temps l'herbe sous le pied un peu. C'est comme très facilement, ce qu'on peut voir, c'est les impôts. Les impôts, c'est pareil. Chaque année, ils vous prennent de la thune, ils vous prennent de la thune, ils vous prennent de la thune. Nous, on préférerait, c'est un peu, en fait, le dilemme entre acheter en nom propre ou en SCI à l'IS. En SCI à l'IS, quand vous revendez, vous faites allumer. Grosso modo, vous aurez payé autant d'impôts que si vous êtes en SCI à l'impôt sur les revenus. Globalement, je fais schématiquement. Sauf qu'il y en a un où, en fait, tous les mois, vous allez sortir de l'argent de votre poche parce que les impôts, vous allez les payer tout le temps. Et dans l'autre, vous allez les payer à la fin. Sauf que les payer à la fin, ça n'a rien à voir avec les payer d'un point de vue gestion des finances. Ça n'a rien à voir. C'est 10 fois plus confortable de les payer à la fin quand on a décidé et quand on a, par exemple, vendu l'appartement. Qu'avoir un appartement dans lequel tous les mois il faut rajouter de l'argent. Donc voilà, faites très attention à tout ce qui est les commissions basées sur des pourcentages. Vraiment, ça vous ralentit à fond. Ça vous ralentit à fond. Et voilà, on arrive au terme du troisième personnage. Je pensais faire qu'un seul épisode sur How to Get Rich. En fait, je m'aperçois qu'on est déjà à 53 minutes de podcast. Que j'en suis au troisième personnage sur 8, même si il y a les autres, je pense que ça va aller un peu plus vite. Donc en fait, je vais faire 2 épisodes, probablement sur 2 semaines, sur How to Get Rich. Donc voilà, si on a des leçons à retenir donc, de ces 3 premiers personnages, donc 3 premiers couples ou personnages seuls, les premières, donc Amani et Matt, voilà, dans les couples, essayez de communiquer sur l'argent, qui fait quoi. Si, je pense que s'il y en a un des deux qui travaille pas, il faut qu'il essaye de trouver quelque chose qui le rende fier et qui ait un but et qu'il y ait de la reconnaissance de la part de celui qui travaille. Essayez de faire au mieux pour répartir les dépenses. Essayez de pas faire des... Mon conseil, en tout cas, c'est de pas faire des trucs foireux du type... Enfin, qui sont non fixes. Du type, un paye l'appartement, l'autre paye les courses, tout ça. C'est pas clair, c'est pas... n'y a pas de traces. C'est, franchement, c'est pas top. Essayer de faire en sorte de bien communiquer et voilà, de faire beaucoup d'argent pour éviter et d'être fier de ce que vous faites. Ça vous permettra d'éviter énormément des causes de rupture. Donc voilà, aimez-vous et faites beaucoup d'argent. Ça vous permettra de rester ensemble. Numéro 2, pour Donnell et Monique. Voilà, ben, essayez de ne surtout pas stocker beaucoup d'affaires. Ne payez jamais pour avoir du stockage. Débarrassez-vous s'il faut en mettant vraiment pas cher des choses sur Le Bon Coin ou sur Marketplace pour vous débarrasser des objets dont vous ne servez pas. Franchement, sur tous les objets que j'ai vendus, dont je me suis débarrassé, c'est quasiment jamais arrivé que j'ai besoin de que j'ai envie ou j'ai besoin d'un objet dont je me suis débarrassé. Donc voilà, pensez à acheter votre, enfin pensez à l'avenir, à où est-ce que vous allez habiter si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, y compris voilà, ça peut aussi être un point, c'est avoir une solution de repli si par exemple dans votre vie ça se passe pas comme prévu et que vous divorcez. Je sais pas si c'est c'est un point dont il faut tenir compte, mais moi, voilà, c'est un point dont je tiendrai compte. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le « what could go wrong ?» Qu'est-ce qui peut mal se passer et qu'est-ce qu'on fait? Imaginez demain, vous lancez votre boîte, vous bossez trop et vous vous occupez plus de votre conjoint et il demande le divorce. Ben, vous allez où? Vous pouvez pas être locataire parce que vous avez pas de fiche de paye. Vous pouvez pas acheter parce que vous venez de lancer la boîte. Vous avez mis tout l'argent dedans. Ben voilà, posez-vous la question. Je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et numéro 3, Nathalie, donc elle, donc bien sûr, sauf si vous avez 5 millions d'euros de patrimoine, ne roulez pas en Ferrari, ne claquez pas tout dans des vêtements Dior et des sacs Hermès, quoique les sacs Hermès, ça maintient de la valeur. Et surtout, voilà, posez-vous la question, je pense, du logement, où est-ce que vous habitez? Pour moi, c'est beaucoup plus important d'habiter près de ces centres d'intérêt que d'habiter dans un truc grand, luxueux, confortable, jardin, etc. Et en tout cas, chacun se fait son propre avis. Et ne mettez pas trop de travaux ni dans un business que vous avez lancé, surtout si vous êtes locataire, si vous louez les locaux. Faites en sorte vraiment d'en avoir pour chaque euro que vous dépensez. Parce que, pareil, what could go wrong? Si demain, le business il ferme, qu'est-ce qui me reste? Tout l'argent que j'ai mis dedans, qu'est-ce qui me reste? Et si vous ne reste rien, ben c'est la cata, hein. Pareil, donc dans les logements que vous achetez, c'est pour votre résidence principale, on a vite tendance à s'enflammer, la salle de bain, la cuisine à 30 000 euros. Voilà, pareil, si demain vous devez partir, si vous avez une super opportunité professionnelle, si vous rencontrez le conjoint de votre vie ou que sais-je, qu'est-ce que vous faites? Et les conseillers financiers, les fonds d'investissement, voilà. Quand vous payez des pourcentages, et l'État, c'est le pire parce que les conseillers financiers, ils prennent 1%, l'État, il vous prend souvent 50%. Essayez de décaler, de ne pas payer proportionnellement à vos revenus. Bah pour les impôts, c'est compliqué, mais pour les autres sujets, parfois, c'est beaucoup plus intéressant de... Parfois, ça peut être intéressant de payer en pourcentage. Par exemple, si vous trouvez quelqu'un qui vous dit « Ouais, moi, je vais t'aider pour que ton business, le chiffre d'affaires, il augmente et la renta de 20%. » Là, je trouve que c'est intéressant de payer en pourcentage parce qu'au moins, vous ne prenez pas de risque. Soit le chiffre, il augmente. Et voilà, vous vous donnez une rétrocommission qui est justifiée. Soit le business, il augmente pas et l'autre, il a bossé pour rien, mais en même temps, il n'a pas tenu ses engagements. Par contre, quand vous payez, essayez plutôt voilà, de payer des choses fixes que de payer des choses variables. Par exemple, et moi, je suis le premier à faire ça, je paye un gestionnaire locatif. Le gestionnaire locatif, il est payé en fonction du loyer. Il touche un pourcentage du loyer. Mais au final, c'est le même travail de louer un appartement. C'est peut-être même moins de travail de louer un appartement à 800 euros qu'un appartement à 400. Parce que sur 400, vous pouvez avoir un peu des cassos, des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont compliqués. Après, sur 800, vous pouvez avoir des gens qui sont peut-être plus tatillons et tout. Mais en quoi est-ce que ça justifie de payer le double? C'est pas forcément un bon calcul. Donc parfois, il vaut mieux payer un truc fixe. Et voilà, on se retrouve. J'espère que ça vous a plu. Pensez à aller sur mon site grosbillet.com. Je suis sûr que vous pouvez m'appeler. Vous pouvez apprendre à négocier. Vous pouvez nous rejoindre au Club Invest. Il y a une place. Hein, donc les places, en général, elles restent pas longtemps ouvertes. Donc voilà, une heure de podcast tout pile. Et pensez, si vous voulez, à commenter, à liker, à partager sur Instagram, sur tous les réseaux que vous voulez. Je vous souhaite une très bonne semaine avec How to Get Rich et on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode numéro 2. Bye bye.